Audible Studio présente Agatha Raisin Enquête, tome 26, Secret sur canapé, de M.C. Beaton, traduit de l'anglais par François Rousseau, lu par Françoise Carrière. À Martine Palmer, merci pour tout son travail. Chapitre 1. Après la grisaille d'un hiver triste, le printemps était arrivé dans le village de Carsley, niché au cœur des Coastwalls, apportant l'éclosion des fleurs, le ciel bleu et la douceur de la brise. Mais quelque part, dans l'esprit de la détective privée Agatha Raisin, l'orage couvait. Quand Agatha était membre de la Société des Dames de Carsley, maintenant défunte, elle connaissait tous les nouveaux venus dans le village. Mais comme elle passait désormais la plus grande partie de son temps hors de celui-ci, elle ne reconnut pas la grande femme efflanquée qui la salua un dimanche alors qu'elle sortait ses poubelles en vue du ramassage du lendemain matin.
« Vous êtes Mrs. Raisin, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle d'une voix stridente. Agatha s'approcha du portail de son joli cottage au toit de chaume.
« Je m'appelle Victoria Bannister, » dit la femme, « et je vous admire énormément !»
Victoria devait avoir entre 80 et 85 ans. Elle avait un long visage aux joues creuses, un long nez maigre et de grands yeux bleu clair.
« Oh, je ne fais que mon travail !» dit Agatha.
« Mais vous avez fait tant de chemin depuis votre jeunesse misérable !»
insista Victoria.
« Quelle jeunesse misérable !» gronda Agatha.
Elle avait grandi dans une tour de logements sociaux délabrés de la périphérie de Birmingham et redoutait toujours que quelqu'un, quelque part, ne distingue ses origines sous son air sophistiqué et son accent des beaux quartiers.
« On m'a rapporté que vous avez commencé très tristement dans la vie, avec des parents alcooliques. Et je vous admire énormément !»
répéta Victoria, ses yeux pâles scrutant le visage d'Agatha.
« Allez vous faire foutre !»
lança Agatha furieuse, et elle rentra dans son cottage en claquant la porte derrière elle. Victoria redescendit Lyle Klein toute réjouie. Elle prenait plaisir à exciter la susceptibilité des autres. Dans son cottage, Agatha considéra sombrement son reflet dans le grand miroir de l'entrée. Elle avait des cheveux châtains brillants, de petits yeux d'ours, une bouche généreuse et bien que d'assez petite taille, une paire de jambes longues et bien galbées. Au fil des ans, elle avait appris à faire bonne impression en adoptant le style vestimentaire et les inflexions de la bonne société. Mais au fond d'elle-même, elle se sentait vulnérable. Elle n'avait passé que de peu les 50 ans, et se rappela qu'à l'époque actuelle, cet âge correspondait à la quarantaine d'autrefois. Elle savait que son ex-mari, James Lacey, un écrivain voyageur, venait de rentrer de l'étranger. Lui connaissait son histoire, de même que son grand ami, Sir Charles Fraisse. Mais à coup sûr, ni l'un ni l'autre n'avait vendu la mèche. Dans le passé, elle avait déjà questionné James et il avait nié. Mais il lui fallait une certitude. D'une façon ou d'une autre, la thérapeute nommée Jill Davant, qui s'était depuis quelque temps établie dans le village, avait appris la vérité. James jurait ses grands dieux qu'il ne lui avait rien dit, mais quelle autre source aurait pu renseigner Victoria Bannister? Agatha avait rendu visite à Jill, poussée par la jalousie, car de toute évidence, James lui tournait autour. Elle avait gratifié Jill d'une version hautement romancée de ses jeunes années, mais était repartie hors d'elle parce que Jill l'avait accusée de mentir.
N'importe quel tocard peut se bombarder thérapeute de nos jours, avait-elle dit à ses chats en rentrant. Des charlatans, tous et toutes.
Elle se rendit au cottage le plus proche, celui de son ex-mari, et sonna à la porte. James vint ouvrir et l'accueillit avec un grand sourire. Entre, Agatha. Je viens de faire du café. Si tu veux fumer, nous le prendrons dans le jardin. Agatha accepta, non qu'elle ait particulièrement envie de fumer, mais parce que l'intérieur du domicile de James, avec son désordre de célibataire, lui rappelait combien elle avait eu peu d'influence sur sa vie au temps où ils étaient mariés. Des merles picoraient la terre de la pelouse mal entretenue. Au bout du jardin, les fleurs d'un magnolia étaient tout près d'éclore et de petits bourgeons roses se détachaient sur le bleu encore pâle du ciel. James apparut avec deux mugs de café et un cendrier.
« Quelqu'un a cancané sur moi, » dit Agatha. « Ce doit être cette Jill Davant. » Quelqu'un est au courant de mes origines.
Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais tellement honte de ton enfance, rétorqua James. Quelle importance aujourd'hui?
Pour moi, ça en a,
grommela Agatha.
La bourgeoisie du Gloucestershire est terriblement snob.
Seulement les gens qui n'en valent pas la peine, tempéra James.
Comme la plupart de tes amis. Tu en as parlé à quelqu'un?
Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit, je ne parle de toi à personne.
Mais Agatha discerna dans ses yeux une petite lueur de malaise.
Tu as révélé des choses sur moi, s'entêta-t-elle. Et récemment encore.
Il passa ses doigts dans ses épais cheveux sombres où ne brillaient que quelques fils d'argent aux tempes. En son fort intérieur, il maudit l'intuition d'Agatha.
Je n'ai rien dit sur ton passé lointain, dit-il. Mais j'ai emmené Jill dîner et elle m'a posé des tas de questions sur toi. Je ne lui ai parlé que des affaires que tu as résolues.
Elle a Gwen Simple dans sa clientèle. Non seulement elle sait que j'ai enquêté sur l'affaire, mais aussi que j'ai failli finir dans une des tourtes à la viande que son fils vendait dans sa boutique.
La dernière enquête d'Agatha portait sur un assassin en série à la Sweeney Todd qui sévissait à Winter Parva. Bien qu'elle ait suspecté Gwen, la mère du boulanger traiteur-tueur, de l'avoir aidée dans ses entreprises meurtrières, la justice n'avait rien pu prouver contre elle.
À vrai dire, poursuivit James, c'est plus ou moins en ton nom que j'ai invité à dîner non seulement Jill, mais Gwen.
Agatha le regarda fixement, non sans remarquer que James, avec sa haute stature et sa musculature d'athlète, était toujours aussi beau.
Jill lui semblait aussi refroidissante qu'une otarie constipée, mais en Gwen, il y avait quelque chose qui faisait flageller tous les hommes sur leurs jambes.
Et qu'est-ce qu'elle avait à dire pour sa défense? La sinistre et mielleuse Gwen Simple? Demanda-t-elle.
Agatha!
La pauvre femme est encore très traumatisée. C'est presque tout le temps Jill qui a parlé.
Gwen était probablement restée assise et muette, dans une de ses robes de style moyenâgeux, assortie à ses traits gothiques, pensa Agatha avec amertume.
C'était le genre de femme qui n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche. Sa présence suffisait à attirer les hommes comme la confiture attire les guêpes.
Et Jill, est-ce qu'elle avait une opinion sur l'affaire?
Quant à Gwen, je croyais qu'elle avait vendu la boutique et quitté la région.
Jill ne me dit évidemment rien des confidences de ses patients, protesta James.
Et Gwen s'est installée dans un pavillon à Hancombe.
J'aurais cru qu'elle déménagerait aussi loin que possible de Winter Parva, dit Agatha. Beaucoup des habitants doivent penser qu'elle est coupable.
Au contraire, les gens se sont montrés très compatissants.
Pfff, fit Agatha.
Agatha décida de rendre visite à son amie Mrs. Blugsby, car elle se demandait soudain pourquoi diable cette fichue thérapeute s'était donné la peine d'aller fouiller dans son passé.
Comme à l'ordinaire, la femme du pasteur se montra ravie de la voir, et comme à l'ordinaire aussi, il n'en alla pas de même pour son mari qui battit en retraite dans son bureau en claquant la porte.
Tandis que Mrs. Blugsby la précédait dans le jardin, Agatha lui fit part de ses inquiétudes.
« Je vais nous chercher un petit chéri, » dit Mrs. Blugsby d'un ton apaisant.
En attendant que son amie revienne, Agatha sentit qu'elle commençait à se détendre. Dans le cimetière attenant au presbytère, des narcisses ondoyaient dans la brise, contre les pierres tombales. Devant elle, un merle cherchait des vers entre les brins d'herbe. Mrs. Blugsby reparut avec une carafe de sherry et deux petits vers. Après qu'elle eut fini de les remplir, elle dit
« Je trouve très curieux que Miss Davant se soit de toute évidence donné du mal pour faire remonter votre passé à la surface. Elle doit vous voir comme une menace. Et si elle vous voit comme une menace, qu'est-ce qu'elle peut avoir à cacher ?»
J'aurais dû y penser tout de suite, dit Agatha. Décidément, je décline.
Et qu'est-ce qui l'a poussée à déménager son cabinet à Carsley? Elle avait sûrement plus de clients en ville.
Ici aussi, je crois qu'elle en trouve, dit la femme du pasteur.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Eh bien, par exemple, elle est passée me voir. Elle m'a dit que pour moi, ce devait être un grand malheur de ne pas avoir eu d'enfant. Or, comme vous le savez, c'est un point sensible. Elle a essayé de m'appâter pour que je fasse appel à ses services. Je lui ai dit que j'avais trop à faire et je lui ai montré la porte. Mais tout le monde a quelque part une faiblesse, une fragilité. Je ne voudrais pas colporter des potins, mais elle s'est construite toute une clientèle bien réelle, des gens de ce village et de tous ceux des alentours. C'est une femme très maligne, à mon avis. Vous avez été si choquée qu'elle ait découvert la vérité sur votre enfance que vous n'avez pas pris le temps de vous demander pourquoi elle vous a prise pour cible?
Le lundi matin, les quelques personnes qui formaient le personnel de la petite agence d'Agatha se réunissaient pour un point sur les enquêtes en cours. Parmi elles, il y avait Tony Gilmore, encore toute jeune, dans sa splendide blondeur. Simon Black, avec son visage de bouffon de cour, l'ancien policier Patrick Mulligan, Phil Marshall, vieux, chenu et toujours amène, et la secrétaire d'Agatha, Mrs. Friedman. Agatha, résolue à ne plus se soucier de leur cacher ses origines misérables, leur déclara que Jill Davant l'avait dans le collimateur et qu'elle se demandait pourquoi.
« Nous avons plusieurs gens, je sais, » dit-elle. « Mais si vous avez un peu de temps libre, voyez s'il y a quelque chose à savoir à son sujet. De nos jours, n'importe qui peut se proclamer thérapeute sans la moindre qualification. Je ne me rappelle pas s'il y a des diplômes encadrés au mur de son cabinet.
Si je lui rendais tout simplement visite pour lui demander pourquoi elle en a après vous, » proposa Phil.
« Elle n'ira, mais je pourrais en profiter pour jeter un coup d'œil. »
« Bonne idée, » approuva Agatha.
« Alors je vais lui téléphoner tout de suite et lui demander si elle peut me recevoir ce soir, » dit Phil.
« Allez-y avec 60 livres en poche, » recommanda Agatha. « Je suis sûre qu'elle est du genre à faire payer n'importe quelle visite comme une consultation. »
Ce soir-là, comme il avait obtenu un rendez-vous pour 8 heures, Phil se rendit au cottage de Jill Davant, qui se trouvait sur la route qui sortait de Carsley. C'était un petit bâtiment de briques rouges à un étage qui avait autrefois abrité des familles d'ouvriers agricoles et semblait quelque peu décrépit. Phil, qui habitait le centre du village, savait qu'il était resté inoccupé pendant pas mal de temps. Devant, il y avait un jardinet plus ou moins en friche, constitué d'un carré d'herbe et de mousse et de 2 buissons de laurier. Les rideaux étaient tirés, mais il vit qu'il y avait de la lumière dans la maison. Il sonna à la porte et attendit. Jill vint ouvrir et le toisa de son doux visage couronné de cheveux blancs jusqu'à ses souliers soigneusement cirés. « Entrez, » lui dit-elle. Il la suivit dans un petit vestibule obscur, puis elle ouvrit une porte sur la gauche et le fit passer dans son cabinet de consultation. Phil observa les murs autour de lui et y repéra plusieurs diplômes encadrés. La peinture était vert foncé, le sol couvert d'une moquette de même nuance. Le meuble principal était un grand bureau en acajou sur lequel était posé un encrier en cristal de style victorien et un téléphone. Rien d'autre sur la surface de bois luisant. En face, un fauteuil en cuir d'aspect confortable et dans un coin, un lampadaire en acier de modèle courant avec un abat-jour à franges qui diffusait une lumière tamisée. Jill s'assit derrière son bureau et lui fit signe de prendre place dans le fauteuil.
« Alors, cher monsieur, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle.
Elle avait une voix grave et voilée.
« Je travaille pour Agatha Raisin, » répondit Phil, « et la rumeur s'est propagée dans le village que vous colportez des ragots comme quoi elle viendrait d'un milieu modeste. Pourquoi ?»«
Parce qu'elle m'a fait perdre mon temps, voilà pourquoi. D'autres questions ?»
« Votre métier, c'est d'aider les gens, » observa Phil de sa voix douce. « Pas de vous escrimer à détruire leur réputation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne vous êtes pas conduite en thérapeute soucieuse du bien-être d'autrui. »«
Foutez-moi le camp d'ici !»
cria Jill avec une soudaine et surprenante violence. Phil se leva, crispa sa main sur son cœur, s'appuya de l'autre au rebord du bureau, puis s'effondra sur le sol.
« Pauvre vieux con !» maugréa Jill. « Tu es trop vieux pour ce boulot. Bon, une ambulance !»
Elle prit son téléphone et sortit de la pièce. Phil se redressa prestement, sortit de sa poche un appareil photo miniaturisé et photographia les diplômes sur les murs avant de s'allonger de rechef sur la moquette et de fermer les yeux. Jill revint et le regarda.
« Avec un peu de chance, te voilà raide mort !» marmonna-t-elle méchamment entre ses dents.
Puis elle ressortit sans même avoir pris la peine de tâter son pouls ou de desserrer son col. De nouveau, Phil se leva et cette fois se glissa dans le vestibule en marchant à pas de loup. Il entendait Jill derrière l'autre battant fermé, mais sans pouvoir distinguer ce qu'elle disait. Il ouvrit la porte d'entrée de la maison et redescendit le long de la route en pente vers le village. Il imprimerait les photos et les scannerait pour les envoyer sur l'ordinateur d'Agatha. Plus tard, ce soir-là, Agatha décida de faire un saut au pub du coin pour s'accorder un petit verre. Au moment où elle sortait de chez elle, elle aperçut James sur le pas de sa porte qui accueillait Jill Davant et sentit le mauvais coup de poinçon de la jalousie. Dans un coin du pub étaient attablées 3 blondes que les gens du cru avaient surnommées les femmes trophées. Chacune des 3 avait épousé un homme riche et le bruit courait qu'elles étaient leur 3e, voire leur 4e femme. Toute la semaine, ces messieurs les laissaient se morfondre à la campagne et il était clair que Londres leur manquait terriblement et qu'elles périssaient d'ennui. Leur apparence était étonnamment semblable.
Même grosse bouche boudeuse de merlu, même bronzage de salon de beauté, même vêtements coûteux, même silhouette impeccable entretenue à grand renfort de régime draconien et de séance avec un coach sportif.
Les femmes avaient-elles des maris trop faits ? Se demanda Agatha.
Bien qu'elle ne soit plus amoureuse de James, songea-t-elle avec mélancolie, peut-être voulait-elle qu'il reste quand même célibataire, pour avoir tout loisir de jouir de sa flatteuse compagnie, comme pour dire aux gens « Regardez le beau poisson que j'ai ferré !»
La porte du pub s'ouvrit, et Sir Charles Fraisse fit son entrée, comme toujours, rasé de près et vêtu d'un costume de quelque grand tailleur, presque félin avec ses traits bien dessinés et son doux pelage de cheveux blonds et lisses. Ayant aperçu Agatha, il se hâta de commander au bar avant de venir la rejoindre à sa petite table, son verre à la main.
« Comment vas-tu, ma chère ?» lui demanda-t-il.
« Très mal, merci. »
Elle lui expliqua par le menu ses déboires avec Jill Davant.
« Donc elle te voit comme une menace ?»
dit Charles.
« Mais en quoi peux-tu l'inquiéter ?»«
C'est ce que j'essaie de comprendre !» s'exclama Agatha. « Je suis furieuse !» Tout à l'heure, Phil est passé chez elle et il a pris des photos de ses diplômes. Il va me les envoyer.
Je parierais que tu lui donnes du grain à moudre, rien qu'en pestant comme tu fais partout où tu mets les pieds,
supputa Charles.
Tu es une snob à l'ancienne mode, Aggie. De nos jours, les gens issus d'un milieu déshérité s'en vantent à qui veut les entendre. Je ne suis pas snob,
cria Agatha. Et les trois femmes trophées pouffèrent bruyamment.
Oh, ne riez pas trop fort, gronda Agatha. Votre botox va craquer.
Tu es une honte ambulante, Aggie, soupira Charles.
Viens, allons allumer ton ordi et jetons un coup d'œil à ces photos.
À la vue de l'élégant sac de voyage de Charles qui gisait dans l'entrée, Agatha fronça les sourcils. Souvent, elle était irritée par sa façon cavalière d'entrer et de sortir de sa vie, et en de rares occasions, de son lit. Tous deux s'assirent devant l'ordinateur.
Nous y voilà, dit Agatha.
« Cher vieux Phil, on peut toujours compter sur lui. Voyons voir. Un master en psycho de l'université de Malyumba. »«
Où est-ce, Malyumba ?»«
En Afrique, » répondit Charles. « Il suffit de payer, on reçoit un diplôme en ce qu'on veut. J'ai lu ça sur Internet. »
Ensuite, un diplôme en aromathérapie du Centre de santé alternative de Bristol. Et un autre en Tai Chi.
« Celui-là, il vient d'où ?»«
De Taïwan. »
Cette soi-disant thérapeute est une fumiste, Agatha. Oublie-la.
Je ne peux pas, Charles. Gwen Simple fait partie de ses patients et je jurerais qu'elle était la complice de son fils.
Du coup, tu penses bien que j'ai envie de voir son dossier. Oh, diable, cette maudite bonne femme,
dit Charles, étouffant un bâillement.
Je monte me coucher. Tu viens?
Plus tard.
Et dans mon lit, à moi.
Bien qu'elle ne soit pas disposée à admettre qu'elle se sentait parfois très seule, Agatha éprouva un léger serrement de cœur quand, au petit déjeuner, Charles lui annonça avec sa désinvolture coutumière qu'il rentrait chez lui. Toute la semaine, ses employés et elle eurent beaucoup à faire avec les enquêtes en cours et durent laisser Jill Davant de côté. Mais arriva le samedi et avec lui ce que les gens des Cotswolds appelaient « la queue de l'hiver », faite d'averses drues de neige tout juste fondues, et Agatha décida de prendre la route d'Oxford et de s'offrir un déjeuner convenable. Ses chats, Boswell et Hodge, se frottèrent à ses chevilles et elle regretta de ne pouvoir les emmener. Elle gara sa voiture sur le parking de Gloucester Green, non sans frémir, en voyant combien il allait lui en coûter. Puis elle se dirigea vers Cornmarket, la principale rue commerçante de la ville, soigneusement évitée par la série télévisée « L'inspecteur Morse », car d'Oxford, comme l'avaient bien compris les producteurs, le public ne voulait voir que les vieilles pierres des collèges et les flèches rêveuses des chapelles, non des foules de gens en train de faire du shopping et des succursales de chaînes de magasins. Initialement, Agatha avait prévu de se régaler d'un bon repas au restaurant du Randolph Hotel, mais elle changea brusquement d'avis et entra dans le premier McDonald's venu, ignorant les hauts cris d'une fille aux yeux fous qui la traita de truc capitaliste. Elle se commanda un burger, des frites et un café noir, et bien que le fast-food soit bondé, se trouva une table en se penchant longuement sur deux étudiants qui, de guerre lasse, finirent par lui laisser la leur. Elle regretta d'avoir renoncé au Randolph. Mais, réfléchit-elle, c'était la faute du politiquement correct et des gens comme cette fille qui lui avait crié dessus. C'était le genre d'incident qui vous donnait envie d'acheter un manteau en vison, de fumer deux paquets de cigarettes par jour
et de manger au McDonald's midi et soir par pur goût du vice.
Elle se rendit compte que, de l'autre bout de la salle, quelqu'un l'observait. Un petit homme, aux cheveux grisonnants. Quand il vit qu'Agatha l'avait repéré, ses lèvres dessinèrent un demi-sourire et il leva la main comme pour la saluer.
Agatha finit son repas et en s'acheminant vers la sortie s'arrêta près de sa table.
« Nous nous connaissons ?» lui demanda-t-elle.
« Non, répondit-il, mais nous faisons le même métier. Je m'appelle Clive Tremond et j'aimerais bien vous parler.
Vous accepteriez de prendre un verre avec moi ?
Au Randolph, par exemple. Un peu de chic après ce boui-boui, ça ne serait pas de refus. »
Le long de Cornmarket, il lui raconta qu'il avait récemment quitté Bristol pour Oxford, où il avait monté sa propre agence.
Au bar du Randolph, Agatha, qui n'avait pas manqué de remarquer la piètre qualité de son costume, lui dit
« C'est moi qui vous invite. »«
Oh, je peux faire passer deux verres sur ma note de frais, » dit le petit homme.
Agatha attendit que le serveur ait pris leur commande et soit revenu avec leur consommation pour lui demander ce qu'il entendait par là.
Vous n'allez pas me dire que vous enquêtez sur moi, j'espère. Ma seule raison d'enfreindre le secret professionnel, expliqua-t-il, c'est qu'une garce de cliente m'a fait travailler sans m'avoir payé un penny et qu'elle semble décidée à ne pas le faire.
Est-ce que cette garce ne serait pas une thérapeute qui s'appelle Jill Davant? S'enquit Agatha.
Exactement! Elle m'a engagée pour déterrer tout ce que je pourrais sur vous et sur votre passé. J'ai trouvé votre certificat de naissance et je suis partie de là.
Je vais lui faire avaler le sien de certificat de naissance. Elle vous a donné une raison?
Elle a prétendu qu'elle comptait convoler en juste noces avec un certain James Lacey, autrement dit, avec votre ex-mari. Elle m'a dit que si vous aviez obtenu qu'il vous épouse, elle pourrait apprendre des choses utiles sur lui en sachant tout ce qu'on peut savoir sur vous.
Je crois plutôt qu'elle a quelque chose à cacher et qu'elle veut me tenir à l'écart, dit Agatha.
Ne lui dites pas que je vous ai parlé,
la pressa Clive.
Je n'ai pas complètement perdu espoir qu'elle me paie. Vous comprenez, même si le plus probable est que je devrais la traîner devant la cour des petites créances. C'est une de mes premières clientes.
Pourquoi avez-vous quitté Bristol?
J'ai divorcé, et je n'avais pas envie de voir mon ex-femme se pavaner avec le gigolo qu'elle s'est trouvé. Ça fait mal, vous savez. Maintenant, il faut que j'obtienne ma patente de détective privé.
Moi, je viens de recevoir la mienne, dit Agatha. Et comment vont les affaires?
Ça prend tournure. Des ados en fugue, des étudiants drogués, des parents qui se font du mauvais sang, ce genre de choses.
Cette Davant, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Elle ne m'a pas fait mauvaise impression, jusqu'à ce que je lui rende mon rapport sur votre passé. Et alors, elle a semblé se réjouir d'une façon très... très mal intentionnée. Je lui ai dit combien elle me devait, mais elle m'a répliqué qu'elle voulait en savoir davantage. Elle m'a raconté que votre premier mari était mort assassiné et que la police s'était peut-être trompée, que c'était peut-être vous la meurtrière. Mais je n'ai plus rien fait, à part lui envoyer un email pour lui dire qu'à moins qu'elle ne me paie au moins un acompte, je ne pouvais pas continuer. Avant de s'installer à Kersley, elle avait un cabinet à Mercer.
C'est moi qui vous paierai, dit Agatha. Postez-moi une déclaration par écrit sur les raisons qu'elle vous a données pour vous engager. Elle prit son chéquier dans son sac. Je vais vous payer tout de suite. Elle remplit un chèque et le lui tendit.
C'est généreux, dit Clive. Je suis très content de ne plus la revoir, sauf peut-être au tribunal. Cette femme me fait froid dans le dos.
Sur la route du retour, Agatha sentit sa colère monter de minute en minute. Alors qu'elle venait de tourner pour prendre la route de Kersley et du cottage de Jill Davant, elle fut ralentie par une vieille Ford qui roulait au milieu de la chaussée.
Elle klaxonna avec agressivité, mais la Ford resta en plein milieu de la voie, avançant à 30 à l'heure.
Au volant, il y avait Victoria Bannister. Elle finit par voir qu'Agatha s'arrêtait devant le cottage de Jill et se gara un peu plus loin sur le bas-côté. Son long nez frémissant de curiosité, elle était décidée à tenter d'entendre ce que les deux femmes se diraient. La fenêtre du cabinet de consultation était ouverte et la voix d'Agatha s'élevait haute et claire.
« Comment avez-vous osé engager un détective pour fouiner dans mon passé? Laissez-moi tranquille ou je vous tuerai! Mais avant de vous liquider, espèce de poufiasse parasite, je vais commencer par vous poursuivre en justice pour atteinte à la vie privée !»«
Ça ne manquerait pas de sel, » dit la voix sarcastique de Jill, venant d'une femme qui ne s'est gagnée sa vie qu'en faisant exactement la même chose. Agatha sortit comme une furie à l'instant où Victoria décampait le long de la route pour se réfugier dans sa vieille voiture. Elle démarra et cette fois partit presque à 100 à l'heure.